Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous des élèves portant sur le sujet suivant, réorienter les politiques et outils économiques pour accélérer la transition écologique et favoriser le bien-être des populations. Donc ce rendez-vous des élèves, il est organisé par le GT Économie de l'INET, un groupe rassemblant plusieurs élèves désireux de participer à tous ces débats et enjeux économiques auxquels sont confrontés les collectivités territoriales. Et rendons à César ce qui revient à César. Le sujet abordé aujourd'hui, il a été proposé par Gildas, qui est aujourd'hui dans la salle. Et nous aurons le plaisir d'animer ces échanges à deux voix avec Jordan, qui est donc élève ingénieur en chef, et moi-même, Hugo Gaillac, élève administrateur territorial. Et la séquence se découpera comme suit, avec 10-15 minutes de prise de parole pour chaque intervenant, puis un temps d'échange avec la salle pour répondre à toutes vos questions.
La parole. Merci. Pour commencer, en France, la problématique du bien-être des populations dans les territoires a émergé avec une force toute particulière au moment du Covid-19. C'était dans le cadre notamment de la crise environnementale. Or, dans la sphère économique, le bien-être des populations est bien souvent mesuré sous le prisme du PIB, au détriment d'autres indicateurs comme par exemple l'indice de développement humain. Cela se traduit par exemple au niveau des collectivités territoriales par le fait que la croissance est bien souvent prise comme unique indicateur lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques de développement économique. Pour autant, d'autres États, d'autres territoires à travers le monde ont pris acte du consensus scientifique issu du rapport Meadows du Club de Rome et issu des rapports successifs du GIEC. Donc, ces indicateurs peuvent permettre de concilier le développement économique avec le triptyque lutte contre les inégalités, équilibres environnementaux, qualité du cadre de vie, tranquillité, sécurité. Donc, parmi les plus connus de ces systèmes, j'ai cité l'indice de développement humain développé par le Programme national des Nations Unies pour le développement, qui publie régulièrement tous les ans le rapport sur le développement humain à l'échelle mondiale. On peut citer aussi le bonheur national brut développé au Bhoutan à partir de 2008. Ainsi, on voit émerger deux vocations à ces systèmes d'indicateurs. Une vocation évaluative, prospective, qui permet d'accompagner les stratégies territoriales et le développement des politiques publiques. Et une vocation plus incitative, pour guider l'action publique et orienter les choix politiques. Donc, dans ce contexte, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer par l'adoption de ces indicateurs, au-delà du PIB, qui puissent à la fois guider l'action publique, guider la décision, dans le but au quotidien d'améliorer le service aux usagers et des citoyens. Et deuxièmement, d'évaluer les politiques publiques dans un cadre conceptuel renouvelé qui concilie économie, sociale et limites planétaires. Donc, en conclusion, avant de repasser la parole, ce qui nous paraît important, nous, et pour reprendre les mots de Bruno Latour, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de se demander où atterrir, ni même comment atterrir. Il s'agit pour nous d'agir pour atterrir. Et on espère avec Hugo que cet entretien nous permettra d'apporter un cadre de réflexion nouveau et d'enrichir la discussion pour permettre de mettre en place les conditions d'atterrissage ensemble avec les territoriaux.
Et donc pour ce rendez-vous des élèves, nous avons invité deux personnalités. Tout d'abord, Madame Hélène Clos. Donc vous êtes actuellement directrice stratégie, innovation et relations citoyennes à Grenoble-Alpes-Métropole. Nous avons découvert vos travaux en lisant un document de l'APUR rédigé en janvier 2022 et intitulé « Penser hors PIB ». Document dans lequel vous présentez notamment l'indice de bien-être soutenable et territorialisé, donc l'IBETS, indice construit par votre collectivité en collaboration avec des chercheurs des universités grenobloises et l'agence d'urbanisme. Et cet outil il doit notamment permettre de mieux mesurer le bien-être des habitants de la métropole. Et c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Également avec nous à distance, donc Timothée Duverger. Vous êtes ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux, chargé de mission ESS et développement durable, et chercheur au centre Émile Durkheim. Donc vos travaux ils portent notamment sur l'économie sociale et solidaire. Et comme évoqué dans un article d'Alternative économique de juillet 2024, pour vous, si l'objectif est de favoriser une transition écologique plus juste et partagée, la croissance ne doit plus rester l'objectif ultime des politiques mises en place. Et donc vous plaidez pour une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Dans ce cadre, et je vous cite pour terminer, Nul besoin de réinventer l'économie pour réussir la transition écologique. Les modèles alternatifs existent déjà. Madame Clos, la parole est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter en une quinzaine de minutes à la fois notre indicateur de bien-être soutenable, territorialisé grenoblois, qui s'enracine dans le long terme, puisque c'est depuis 2008 qu'on travaille sur ces questions. Donc, on n'a pas attendu le Covid pour se dire que la question du bien-être soutenable était un point important. Mais surtout, je vais essayer de passer un peu de temps sur nos usages. Comment est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui dans notre pilotage des politiques métropolitaines? Alors, je voulais commencer en disant pourquoi est-ce qu'on s'est préoccupé de cette question des nouveaux indicateurs, pourquoi c'était intéressant. Je vous ai mis à l'écran cette photo qui est bien connue, qui est la photo du lampadaire, c'est-à-dire qu'on a tous ce biais-là, c'est-à-dire qu'on va regarder la réalité, le réel, avec les indicateurs dont on dispose. Donc ça veut dire que reste en dehors du champ de la lumière toute une série de données, d'informations, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des données statistiques, hein, quand je dis données, c'est bien entendu au sens large, peut y avoir du quali aussi, donc qu'on n'est pas capable de compter et donc de prendre en compte. Et donc c'est toute la question qui est derrière la question des indicateurs de richesse, c'est est-ce qu'on compte, est-ce qu'on comptabilise ce qui compte, c'est-à-dire ce qui a de la valeur. Et notre préoccupation à nous ensuite en tant qu'acteur public, c'est de dire comment est-ce qu'on le prend en compte dans nos décisions. Alors, vous l'avez dit, dans les motivations un peu internationales, il y a beaucoup eu cette critique du PIB, comment est-ce qu'on sort du PIB. Je ne sais pas s'il y a des territoriaux infradépartementaux dans la salle, mais la plupart d'entre nous, ça n'existe pas, le PIB, à l'échelle locale. Mais par contre, on a plein d'autres indicateurs insatisfaisants et sur lesquels ça vaut le coup de se dire comment est-ce qu'on peut les changer, les compléter pour avoir une vision plus large. Et nous, une de nos motivations principales dans les années 2000, quand on a commencé à travailler cette question, c'était notamment la question des indicateurs sociaux. Moi, j'ai commencé à travailler en politique de la ville avec cette idée que la plupart de nos indicateurs sociaux, c'était des indicateurs dits à charge, c'est-à-dire des taux de chômage, des taux de précarité, etc. En disant, c'est aussi les chiffres qu'on utilise, c'est une manière de regarder le réel qui peut avoir une fonction de stigmatisation. On l'a beaucoup dit sur les ZEP, les US, etc., tout le zonage. Mais plus largement, ça veut dire aussi qu'on passe à côté d'indicateurs plus de capacité, comme des taux d'engagement, des taux de participation citoyenne, des taux d'entraide. Ça n'existe pas. Et en revanche, ça dit aussi une capacité d'un territoire à agir. Donc c'est notre première... Dans nos motivations, il y a eu cette dimension-là. Et plus largement, se dire, tous ces angles morts de l'observation, comment est-ce qu'on arrive à les éclairer pour compléter notre tableau de bord? Alors, vous l'avez dit, on est loin d'être les seuls à avoir eu cette pensée. Il y a tout un mouvement international qui réfléchit à cette question, à l'échelle des pays, mais aussi à l'échelle locale. J'ai mis à l'écran deux inspirations qui nous aident à réfléchir aujourd'hui nos manières de travailler et de penser les indicateurs. Il y a le Buen Vivir, alors je ne suis pas hispanophone, qui vient d'Amérique du Sud. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a gardé du Buen Vivir, c'est cette idée que, donc cette notion de bien vivre, elle considère l'humain comme faisant partie d'un tout. On en a pas mal parlé dans ces deux jours des ETS. Et en se disant que l'enjeu, c'est d'arriver à faire le lien entre son bien-être individuel, sociétal et de ce qu'eux, ils appellent le cosmos, qu'on pourrait appeler la planète de notre côté. Mais en tout cas, cette notion d'équilibre est particulièrement intéressante. Et là où c'est intéressant, c'est que ça vient un peu à l'encontre de nos représentations classiques de ce qui est positif. Dans le monde occidental, ce qui est positif, c'est ce qui croît, ce qui augmente tout le temps. Et ce que portent beaucoup les membres du Buen Vivir, c'est le fait de se dire ça n'existe pas une croissance infinie dans un monde fini. Donc la question de comment est-ce qu'on équilibre est importante. Et la deuxième forte inspiration, c'est celle du Bhoutan, que vous avez aussi cité, avec un élément de leur bonheur national brut qui est particulièrement inspirant, sur lequel on reviendra régulièrement, c'est cette histoire des seuils de soutenabilité. La question que posent les Bhoutanais, c'est « how much is enough ?» Donc, qu'est-ce qui est assez ? Avec cette idée que si on se met d'accord sur qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui est un seuil de soutenabilité, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir un maximum de personnes qui atteignent ce seuil de soutenabilité et pas qu'il y ait la moyenne qui l'atteigne avec des gens qui sont très au-dessus et des gens qui sont très au-dessous, mais se dire qu'est-ce que c'est notre seuil de soutenabilité. Et là où ça devient intéressant à une échelle territoriale, c'est l'enjeu de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est un bon seuil de soutenabilité, tous ensemble. Et peut-être que ce seuil de soutenabilité, il ne sera pas le même. On s'est comparé avec le Québec qui avait des des seuils où là, un de leurs indicateurs, c'était la pêche de la waniche, qui est un poisson de là-bas, et il fallait qu'il y en ait suffisamment. Évidemment, ce n'est pas la même logique dans nos montagnes grenobloises. Par contre, il y a des indicateurs sur lesquels on peut se mettre d'accord et se dire, ben voilà, qu'est-ce qui est propre à nous, qu'est-ce qui est soutenable dans notre territoire. Et puis la troisième inspiration qu'un certain nombre d'entre vous connaissent certainement, c'est la théorie du donut de Kate Raworth, qui dessine ce beignet américain qui a au centre le plancher social et à l'extérieur le plafond environnemental, avec cette idée qu'il faut que personne tombe dans le trou du social, et elle prend comme indicateur du plancher les 17 indicateurs des objectifs de développement durable, et puis à l'extérieur elle prend les 9 limites planétaires, et en se disant voilà, il ne faut pas qu'on explose le plancher, le plafond environnemental, et qu'on tombe dans le trou social. Ce qui est intéressant dans la théorie de Kate Raworth par rapport au thème de la table ronde d'aujourd'hui, c'est que derrière cette représentation qui a essentiellement un mérite de pédagogique, c'est-à-dire qu'il compose sur un même schéma ces indicateurs sociaux et environnementaux qu'en général on regarde les uns à la suite des autres. Donc là, ça dit il y a un lien entre les deux. Ce que ça ne dit pas exactement, c'est comment il se fait ce lien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'elle appelle un espace juste et sûr pour l'humanité, ce qui est à l'intérieur du donut. En revanche, derrière, et ça fera lien avec l'intervention de M. Duverger tout à l'heure, elle porte toute une conception d'économie qui est une économie circulaire, une économie distributive qui essaye de... qui est viable et soutenable. Enfin, voilà, je vous invite à creuser au-delà de l'image donut tout ce que porte Kate Raworth en termes d'économie. Voilà pour les présupposés théoriques. Maintenant, on plonge dans notre indicateur de bien-être soutenable territorialisé, qui a été effectivement travaillé depuis longtemps avec des chercheurs et des acteurs du territoire et de l'observation. Et en fait, ce qui est toujours intéressant quand on s'interroge à qu'est-ce que c'est que le bien-être, c'est de dire c'est en fait qu'est-ce qu'on met comme élément derrière. Nous, on n'est pas du tout sur une perception du bien-être uniquement comme subjectif. Ça peut être des choses que vous voyez assez régulièrement. C'est est-ce que les gens sont heureux ou pas sur une échelle de 1 à 5, etc. Et nous, on est vraiment dans une logique où on prend le bien-être comme avec une approche capacitaire, au sens d'Amartya Sen, si je veux un peu briller avec des références théoriques. C'est cette idée de dire que en fait, le bien-être, c'est une tension entre ce que vous voyez à l'échelle horizontale, plutôt la dimension individuelle, c'est une tension entre mes aspirations, ce que je voudrais faire pour être bien, et les moyens que j'ai à titre individuel, et puis une dimension plus de territoire ou d'environnement, qui sont dans quel espace je vais pouvoir me développer. Et donc, c'est à la fois des contraintes. Je ne vais pas avoir les mêmes aspirations si je vis dans un pays en développement ou dans un pays dit développé. Je ne vais pas avoir les mêmes aspirations si je vis au bord de la mer ou en montagne, etc. Et puis, mes capacités d'action, c'est-à-dire ce que m'offre le système socio-technique du territoire. Et donc là où c'est intéressant aussi, et ça fait écho à ce que nous a dit Samuel Aubin, le sociologue, hier, c'est vraiment le fait de se dire que notre capacité à agir et à être bien, c'est à la fois des dimensions personnelles, mais aussi collectives au sens sociétal et territorial. Donc on va vraiment développer cette perception-là. Et puis juste un petit bout sur la partie méthodo, comment est-ce qu'on s'est pris pour fabriquer cet indicateur. En fait, au tout début de la vie, on s'était dit on va utiliser des données existantes parce que voilà, c'est aussi coûteux de fabriquer de la donnée. Ça peut être intéressant d'aller chercher de la donnée sur l'engagement associatif, etc. Et puis, en réalité, on s'est rendu compte qu'il nous manquait trop de données. Donc après, nous, on est une métropole qui a une université, donc on a eu cette capacité à construire de la donnée à partir de l'enquête, une enquête par téléphone auprès de 1000 habitants, et avec ce choix de dire que ça va être un espèce de rendez-vous régulier. En 2012, en 2018, en 2021, on a posé à peu près la même enquête, je ne vous cache pas qu'on l'a fait un peu évoluer, auprès de ces personnes-là, et avec cette idée de dire comment est-ce qu'on arrive à tracer dans la durée l'évolution des personnes. C'est pareil, je pourrais vous mettre à disposition le questionnaire d'enquête, mais il va chercher à la fois des données sociaux, des mots classiques, mais aussi des pratiques de vie qu'on ne connaissait pas, du genre quelles sont vos pratiques de consommation, quelles sont vos pratiques de sociabilité, d'entraide, sur qui vous pouvez compter en cas de coup dur, mais aussi la partie aspiration, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que ce serait. Donc voilà, on essaye d'éclairer ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la base de nos travaux, c'est cette enquête Quanti. Et après, l'autre point qui était très intéressant, c'est la démarche participative. C'est ce fameux accord sur qu'est-ce qui compte qu'est-ce qu'on considère comme intéressant à compter, et un travail sur ces seuils de soutenabilité pour se dire qu'est-ce qui nous fera dire qu'effectivement on est bien sur le territoire. Alors voilà le résultat en version schéma de notre indicateur de bien-être qui a 8 dimensions et un point qui peut sembler anecdotique, mais c'est les petits morceaux de puzzle qui font que ces dimensions sont interconnectées. C'est bien l'idée de se dire que l'enjeu, c'est pas qu'il y ait, on soit bien sur l'accès au bien de subsistance, sur le travail emploi, affirmation de soi, etc. Mais on se rend compte que c'est, tout ça est assez interdépendant et je vais l'illustrer après. Dans les points peut-être qui sont à retenir de ce travail sur IBES, c'est que vous allez trouver des indicateurs qui sont assez classiques, peut-être qui vous étonneront pas, du type bien de subsistance. Oui, évidemment, c'est la base de la pyramide de Maslow, donc le fait d'avoir accès à un logement et qu'on ne soit pas en surnombre dans ce logement, d'avoir de quoi se nourrir, etc. Sur travail et emploi, ça peut sembler classique, mais après, l'indicateur qu'on a mis derrière, c'est pas est-ce que j'ai un emploi ou pas, c'est est-ce que je suis satisfait de mes conditions d'emploi. Donc, on va un peu creuser derrière. Sur la dimension affirmation de soi et engagement, démocratie et vivre ensemble, là, c'était intéressant parce que c'est de la donnée qu'on n'a pas d'habitude. Donc, on va chercher ce que je vous ai dit sur sociabilité, confiance dans les institutions, dans les autres, etc. Et puis, je ne vais pas tous les passer, mais il y a le sujet comme le temps et les rythmes de vie qui, dans des environnements urbains, étaient particulièrement importants. On va chercher la question du stress et des temps de trajet. Je vais vous en mettre encore un peu plus plein les yeux avec cette deuxième illustration totalement illisible. Mais l'idée, c'était de vous montrer que sur comment est-ce qu'on l'utilise. C'est les 8 indicateurs que vous voyez au milieu. L'idée, c'était d'interroger est-ce qu'on se réalise ou pas sur chacune de ces dimensions. Et c'est là où on va rentrer dans les seuils de soutenabilité. On va regarder si sur les indicateurs qui sont derrière chaque indice, globalement, on a des gens qui sont plutôt positifs, qui s'en sortent bien, ou est-ce qu'ils s'en sortent mal. Et ce qui est intéressant, c'est que on rentre par les indicateurs et après on ouvre la boîte et on dit tiens, sur ceux qui se réalisent bien d'un point de vue, par exemple accès, qui sont bien dans leur rythme de vie, qui trouvent que leur vie elle est équilibrée, etc. J'ouvre la boîte et je regarde est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, CSP+, CS-, est-ce qu'ils vivent plutôt en rural ou en urbain, etc. On peut vraiment ensuite aller décomposer. Donc voilà les usages qu'on en fait aujourd'hui, et pour rentrer encore un peu plus dans des illustrations. Le premier usage qu'on... Ça va, je vais vite.
C'est très bien.
Le premier usage qu'on a fait, c'est que c'est venu compléter notre observation. C'est le truc de base, une enquête sur des données qu'on n'a pas d'habitude, ça nous permet d'éclairer des parties d'habitude aveugles de l'action publique. Et du coup, ces données-là, on les réintègre dans nos bases de données, et notamment, on a la chance d'avoir une agence d'urbanisme et un système d'observatoire. On leur met dans les bases de données et ça vient éclairer certains sujets. Par exemple, quand on a mis en place la zone à faible émission, très récemment, on avait besoin de regarder quelle était la part des gens qui risquaient de se priver, qui étaient dans des tensions sur leur revenu et de se priver d'un certain nombre de mobilité. Avec IBEST, on a pu éclairer cette question-là en disant, qu'est-ce que c'est les profils de précarité, j'y reviendrai. Et avec ce type de données, on vient compléter nos observatoires, on a des cahiers d'observation et on fait un gros boulot pour diffuser, vulgariser les données. Donc, par exemple, là, on a fait une publication toute récente sur les questions enfance-famille, où on regardait les trajectoires d'habitat des ménages. Et on peut regarder pourquoi est-ce que les gens choisissent plutôt une maison ou un appartement, qu'est-ce qu'ils vont chercher comme aménité urbaine, etc., qu'est-ce qui leur plaît autour de ça. C'est vraiment l'intérêt d'une enquête qui est un peu 360, c'est qu'on peut faire plein de ponts qu'on ne fait pas d'habitude. Je pourrais vous faire passer la publication. Autre élément intéressant, c'est qu'effectivement, ça nous aide à porter un regard un peu différent sur des réalités. Je vous ai illustré là avec la question du rapport à la précarité. Donc ça, c'est notre dimension, vous voyez, dans les 8 qui s'appelle accès aux biens de subsistance. Si je regardais uniquement la question de la précarité au sens monétaire, c'est le petit carré en haut à gauche INSEE, on sait que sur le territoire de la métropole, j'ai 14% des habitants de la métropole qui ont moins de 1 500 euros par mois par foyer. Donc, 14%, c'est déjà beaucoup, mais Et en fait, on se rend compte qu'avec notre définition de ceux qu'on a appelés les précaires, c'est-à-dire ceux qui ne se réalisent pas d'un point de vue accès aux biens de subsistance, on arrive plus proche d'un tiers, et ce qui correspond à ce que nous disent aussi nos services sociaux. Et derrière la notion de précarité ou de vulnérabilité, comme on a pas mal on en a pas mal parlé hier, eh ben, il y a la question des gens qui sont en suroccupation dans leur logement, ceux qui vivent seuls, 60%, c'est la question de l'isolation, elle est particulièrement importante. Le seuil de pauvreté, évidemment, mais aussi ces questions de restrictions. Et on a dit, ben, qu'est-ce qui nous intéresse comme restriction particulière en termes de vulnérabilité ? Restrictions sur les soins, restrictions sur l'alimentation. Donc, vous voyez que ça nous permet d'avoir une description du halo de la précarité qui est bien différente de celle qu'on aurait avec des statistiques classiques. Deuxième illustration sur une manière de regarder la réalité qui est peut-être un peu moins classique aussi, c'est autour de ce sujet de démocratie et vivre ensemble. Là où je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, cette stat que je vous présente à l'écran, elle date de 2018, et on regardait un peu quels sont les réseaux d'entraide et de soutien qu'ont les habitants du territoire. On voit qu'on a 40%, ils sont bien connectés aux autres, et puis globalement, ils sont dans un rapport de confiance dans les institutions. On a 12%, ils sont isolés, ça fait partie de nos publics de politique publique. Et on a une grosse moitié, là, qu'on a appelé les reliés indépendants, et eux, ils nous disent, je suis bien en lien avec pas mal de gens, je suis dans des relations d'interdépendance, par contre, j'ai pas du tout confiance dans les institutions. Et ben, 2018, c'est juste avant les Gilets jaunes, et ça nous dit, il y a quelque chose qui tourne mal au Royaume du Danemark, dans la relation entre l'institution et une partie des habitants du territoire. Comment est-ce qu'on va creuser cette question ? Comment ce signal, qui est loin d'être faible, hein, la moitié des répondants, on en tient plus compte. Et là où c'est intéressant, je vais aller vite, mais c'est pour vous dire l'immensité des exploitations qu'on peut en faire, c'est qu'en fait, derrière ces trois catégories que j'ai décrites, on est capable de se dire, OK, on va regarder en particulier ceux qui sont très fragiles, et ben, qu'est-ce qu'il y a comme corrélation qu'on voit avec tout le reste des données ? Et sans surprise, ben, les gens qui sont pas bien dans Démocratie Vivre Ensemble, c'est des gens qui sont plus isolés, qui ont le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur vie, dans leur relation à eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise, même dans leur lien à la nature, ils sont moins à l'aise que les autres, et dans le lien à la société non plus. Donc voilà, ça permet aussi d'illustrer cette dimension.
Merci. Alors, peut-être juste avant d'aller plus loin sur ce système d'indicateurs, on aimerait demander à Monsieur Duverger comment est-ce que ça se traduit, lui, côté recherche et le lien qu'il peut faire avec le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Oui, bien sûr. Donc, en complément, peut-être juste un élément de réflexion, parce que je trouve que les collectivités locales, malgré tout, et certes le PIB ne leur est pas du tout applicable, enfin en tout cas ça n'est pas un indicateur a priori pertinent, mais moi ce que j'ai en tête, c'est, je me souviens, j'ai été, vous savez, élu d'opposition dans une ville de la métropole bordelaise il y a quelques années, et les conseils municipaux, notamment portant sur le budget, commençaient par les prévisions de croissance du FMI. Oui, c'était quand même... Donc, vous voyez, vous débattiez en fait du budget municipal sur la base des prévisions de croissance du FMI. Effectivement, moi, j'ai toujours trouvé ça assez fabuleux, parce que là, on est dans une déconnexion la plus totale, en fait. Et l'objectif, vous voyez, donc on démarrait par le FMI, l'OCDE, etc., et on redescendait effectivement sur le budget de l'État, et ensuite, on terminait sur le budget de la collectivité pour dire à la fin, bon, il n'y a pas d'argent, il va falloir couper. Voilà, donc vous voyez, c'était un peu ça la logique, hein, budgétaire et gestionnaire à l'époque. Je crois que ça se fait toujours, hein, dans bien des collectivités. Et donc ça, c'est ce dont il faut sortir, à vrai dire. Il y a une autre dimension que j'aimerais pointer, c'est parce que le sujet, je crois, pour aujourd'hui, c'était aussi la question du développement économique. Et s'agissant du développement économique, si on regarde, par exemple, les politiques qui sont menées en la matière par les territoires, hein, ce sont souvent des politiques d'attractivité. Tout le réseau des agences de développement économique a été largement structuré ces 20 dernières années par ces logiques d'attractivité économique, avec derrière des déséquilibres territoriaux assez forts et différents problèmes là qui peuvent être relevés d'ailleurs par les indicateurs qui viennent d'être présentés en matière de, par exemple, de mobilité, d'aménagement du territoire, de lien social, de précarité, etc. Donc il y a cette logique de l'attractivité, d'ailleurs, qui se déclinait, hein, en termes d'indicateurs. Si vous prenez les indicateurs des agences de développement économique, vous savez, c'est assez facile. C'est décision d'investissement et nombre d'emplois créés. Bon. Là aussi, sans présumer de la qualité des emplois créés, ni d'ailleurs de la qualité des activités créées. Quand on parle des décisions d'investissement, on ne se posait pas la question de savoir si ça s'inscrivait dans un plafond écologique ou dans un plancher social. Voyez. Donc, il y a effectivement, me semble-t-il, là des choses à revoir. En la matière, alors, il y a des réflexions, juste pour poursuivre là-dessus, il y a des réflexions au niveau global, hein, sur comment réformer cette question du PIB. Il y a eu beaucoup de travaux. En France, la personnalité, enfin, il y en a deux, mais c'est surtout Florence Janicatrice qui a beaucoup travaillé là-dessus à l'Université de Lille et qui a construit notamment un indice de santé sociale, hein, voilà, pour vous donner un élément, en essayant, voilà, au niveau régional, là, c'était plutôt pensé au niveau régional, en prenant en compte des critères, mais ça croise ce qui vient d'être présenté, hein. L'éducation, le logement, la santé, les revenus, le travail, l'emploi, le lien social et la sécurité. Voilà. Enfin, c'était le type de critères qu'on retrouvait dedans, vous voyez, pour essayer finalement d'avoir un indice un peu synthétique aussi qui prenne en compte ces différentes dimensions. Parce que l'une des difficultés de ces indicateurs, et donc là, peut-être juste pour préciser, donc avec Dominique Méda notamment, elle propose en fait de prendre en compte ben justement le plafond écologique avec par exemple des indicateurs, enfin en prenant un ou deux, par exemple l'empreinte carbone évidemment, éventuellement un indicateur sur la question de la biodiversité, et de prendre en compte le plancher social à travers cet indice de santé sociale. Hein, voilà. Mais c'est de ne pas trop multiplier les indicateurs, parce que l'une des difficultés, à l'inverse, l'avantage du PIB, c'est qu'évidemment il y en a un. Hein, et c'est très facile à comprendre, le PIB. Donc évidemment, ça ne résout absolument pas tous les problèmes qu'on vient de voir, mais par contre, ça a le mérite, en termes de pilotage, de la plus grande simplicité. Donc c'est vrai que si demain, on doit réformer ces indicateurs, bon, il faut rester, soit on arrive à bâtir un indicateur synthétique, alors on a cité l'IDH tout à l'heure, mais qui lui aussi ne suffit pas d'une certaine façon, soit on arrive à faire cet indicateur synthétique, mais il y a de fortes chances que ce soit un peu compliqué si on veut, voilà, prendre en compte toutes les dimensions que l'on évoque là, ou alors on se dit, voilà, on essaye de bâtir deux, trois indicateurs pour essayer d'aller plus loin, mais il faut éviter effectivement la grande batterie d'indicateurs, c'est en avoir beaucoup trop, parce qu'après, en termes de pilotage et d'aide à la décision, c'est pas très clair, quoi. Enfin, ça permet pas, à vrai dire, enfin, en tout cas, ça pose des difficultés en termes de pilotage. Voilà, c'était juste quelques remarques préalables sur ces aspects-là et bon, les quelques réflexions qui peuvent être en cours. Alors, il y a eu des applications, je le disais, l'indice de santé sociale, il a été appliqué au niveau régional, hein, voilà. Là, effectivement, il y a ces actions qui sont menées par la ville de Grenoble, enfin par la métropole de Grenoble. Donc, il y a pas mal d'expérimentations en la matière, mais il va y avoir aussi un enjeu, sans doute, d'harmonisation, hein, c'est-à-dire à la fois, il y a la nécessité de prendre en compte les dimensions territoriales, de faire en sorte de bâtir ces indicateurs de manière participative, hein, à la fois avec les acteurs académiques et les acteurs du territoire, dont les habitants eux-mêmes. Et moi, je lirais vraiment cette question des indicateurs, notamment à tous les débats sur les orientations budgétaires et la construction budgétaire, hein. Moi, je pense que c'est là qu'il faut le situer, à vrai dire. Pas juste, voilà, de manière hors sol, évidemment, et au contraire, de le mettre sur le cœur de la décision publique, hein. Ce qui veut dire aussi, vous voyez, ça peut avoir des incidences, hein, de dire ça. Ça veut dire que derrière, il faut arriver à bâtir, à faire participer aussi au budget, c'est-à-dire sortir du budget participatif d'une certaine façon, bon, qui est très bien, mais qui, à certains égards, peut n'être qu'un gadget, pour aller véritablement vers une participation au budget, c'est-à-dire comment on associe plus largement les citoyens à la construction budgétaire elle-même, et pas seulement à un petit bout du budget pour voilà, faire quelques petits investissements dans la commune. Je pense que ça, c'est un élément assez fondamental, et là, il me semble qu'une bonne porte d'entrée, effectivement, serait la question de ces indicateurs, puisque à partir de là, quelque part, dans le choix des indicateurs, on fait des choix politiques. C'est-à-dire dire on ne veut pas regarder l'indicateur du PIB, mais on veut, ou les décisions d'investissement, pour mon exemple de tout à l'heure, sur les agences de DEVECO, mais on veut regarder la qualité des emplois créés, la qualité du lien social, les enjeux de santé, l'environnement, etc. C'est des choix politiques, hein, en soi. Donc je pense qu'il y a un enjeu, vous voyez, de construction collective et du coup très territorialisée autour de ça. Et en même temps, il faut quand même qu'il y ait un cadre, hein, qui soit un peu partagé au niveau national, pour pas, enfin voilà, c'est-à-dire peut-être par des échanges entre, comme là vous le faites, hein, entre les collectivités, entre les différents acteurs, pour quand même qu'il y ait des convergences, et que même si on adapte les indicateurs au niveau local en fonction des réalités locales, en fonction des besoins qui émergent, en fonction de ce que disent les uns et les autres, qu'il y ait quand même un cadre, un minimum partagé là-dessus, pour quand même que qu'on soit tous engagés, je dirais, dans la même direction. Voilà. Après, s'agissant, et pour conclure là-dessus, puisque vous me questionniez sur la place de l'économie sociale et solidaire dans ces opérations, s'agissant de cela, c'est vrai que c'était la tribune que vous citiez, je pense que c'était celle que j'avais faite avec Timothée Paric, oui. Sûrement dans Alter Eco, ou dans Socialter, je ne sais plus, parce qu'on en a fait plusieurs. Donc notre idée, c'était de dire, au fond, bon, si on doit réviser nos modèles économiques, si on doit les repenser, changer d'imaginaire, en fait, il n'y a pas tout à réinventer. Effectivement, il y a des initiatives qui existent déjà. Et de ce point de vue, l'économie sociale et solidaire, effectivement, fournit hein, clairement un ensemble de réponses. Parce que, en fait, si on dit il faut sortir de la logique de la croissance infinie, si on dit le but, c'est pas simplement de rechercher une croissance infinie, parce que nous sommes dans un monde fini, vous avez cité le rapport Meadows qui a maintenant plus de... qui est maintenant assez vieux, à vrai dire, qui a plus de 50 ans. Si on veut sortir de ça, ça veut dire qu'il faut basculer vers une économie des besoins, c'est-à-dire une économie qui réponde aux besoins du territoire. Et c'est vrai que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est leur fondement même, hein, parce qu'ils ont un but non lucratif, des modes de gouvernance collectifs. Ils essayent effectivement de répondre à ces besoins. Et à ce titre, d'ailleurs, ce sont des acteurs qui sont en fait en coalition avec les acteurs territoriaux pour répondre aux besoins du territoire. Moi, je pense qu'il y a une alliance très forte entre les deux. D'ailleurs, on l'a vu récemment au moment des débats du projet de loi de finances, bon, qui là est un peu suspendu par les problèmes gouvernementaux que nous rencontrons. Mais quand on regarde dans le projet de loi de finances, il était prévu, vous voyez, de faire 8 milliards d'économies sur l'ESS. C'est quand même assez invraisemblable, hein, alors que dans le même temps, on faisait des cadeaux très généreux aux entreprises privées. C'est-à-dire, les entreprises privées, on sait que, par exemple, l'État met entre 150 et 200 milliards d'euros d'aide directe et indirecte aux entreprises privées. Alors que pour l'ESS, on sait que c'est autour de 16 milliards. Là, on expliquait qu'il faut mettre 8 milliards d'euros d'économie pour l'économie sociale et solidaire. Et dans le même temps, on disait pour les collectivités locales, ça va être 5 milliards. Sauf qu'en fait, en bout de chaîne, quand on dit 5 milliards pour les collectivités locales, c'est en réalité plusieurs milliards en plus pour l'ESS. Parce qu'à la fin, en fait, on finance moins d'associations, notamment, puisqu'en France, c'est plutôt des associations, mais ça peut être aussi des coopératives au niveau territorial. Donc voilà, donc, ça veut dire en fait que quelque part, je boucle avec ce que je disais au départ, dans la gestion budgétaire un peu à courte vue, en fait, on supprime à chaque fois ce qui est le plus essentiel. Voilà, c'est ça, il me semble, hein, le choix politique qui se fait un peu de cette façon-là. On l'a vu dans la construction du PLF bon, qui a échoué. Et c'est vrai qu'on voit aussi le mécanisme de solidarité immédiat, vous voyez, c'est-à-dire à qui on demande de faire payer, c'est pas aux entreprises, hein, c'est pas aux entreprises privées ou bien peu, mais c'est véritablement, et notamment aux grands groupes, mais c'est véritablement aux acteurs des territoires et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc pour conclure là-dessus, je pense qu'il y a une vraie solidarité à penser, une vraie coalition d'intérêts, en réalité, une coalition de causes et d'intérêts à porter entre l'économie sociale et solidaire et les acteurs territoriaux pour justement porter hein, ce nouveau discours, co-construire l'action publique, mais pour de vrai, hein, c'est-à-dire pas juste faire des mécanismes de consultation, multiplier les gadgets, engager plein de consultants pour ce faire, mais véritablement, effectivement, changer de management public, finalement, sortir des logiques de mise en concurrence, sortir de la mise en marché à tout prix pour se sécuriser juridiquement, par exemple, mais bâtir effectivement davantage en co-construction avec les acteurs locaux et notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les politiques publiques. Je pense que ça, c'est ça qu'il y a en toile de fond et nécessairement, ça va amener une révision des indicateurs tels qu'on vient de l'exposer.
Merci, Monsieur Duverger. Ben, justement, sur cette partie mise en place de nouveaux indicateurs, moi, il y a deux mots-clés qui m'ont interpellé dans ce que vous avez dit, c'est simplicité et pilotage. Donc ma question, Madame Clot, s'adresse à vous. Quelles seraient les conditions de réussite pour une collectivité dans la mise en place de ces nouveaux indicateurs et plus particulièrement, quelle gouvernance mettre en place pour assurer la mise en œuvre de ces nouveaux indicateurs et leur suivi dans le temps?
Alors, le sujet de la simplicité, il est loin d'être... Enfin, je vais pas y répondre de façon automatique. En fait, depuis le temps que je travaille sur ce sujet, moi, je suis partie avec ce rêve de dire on se met d'accord sur un indicateur alternatif au PIB, sur toutes les collectivités, et tous ensemble, on va arriver à trouver quelque chose qui sera pertinent. Et puis, voilà, depuis plus de 20 ans que je travaille sur le sujet, je me rends bien compte qu'il y a besoin aussi de ce travail de sur-mesure et d'appropriation des données. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Pour autant, je pense qu'on peut se doter collectivement d'un référentiel commun. Ce n'est pas forcément tous les indicateurs e-best et le détail de comment est-ce qu'on enquête qui peut être le même. Mais par contre, arriver à se dire, ben oui, tous on va parler d'éducation, de santé, d'avoir un certain nombre de choses comme ça. un point sur lequel je voulais revenir pour partager avec vous, c'était que on travaille en réseau depuis un moment autour de ces questions d'indicateurs et on a constitué un centre ressources, je vous les réafficherai après, qui s'appelle Cap Bien Vivre, qui est un centre en ligne sur lequel vous pouvez aller faire votre marché d'un certain nombre de pratiques. Et il y a tout un travail de recherche qui est aussi soutenu par l'ADEME, là récemment, sur comment est-ce qu'on fait le lien entre sobriété et bien vivre. Donc ça, ça vient aussi un peu re-questionner notre modèle de société qui dit c'est plus je consomme, plus mieux je suis. Là, il y a un boulot qui a été fait, un rapport de l'ADEME qui vient de sortir là-dessus sur le lien entre sobriété et bien vivre, qui est intéressant. Et après, pour revenir sur votre question du pilotage, en fait, nous, le principal usage qu'on fait de ces nouveaux indicateurs en termes de pilotage, la façon dont moi, je trouve qu'ils crantent la décision, c'est dans les pratiques d'évaluation de politique publique. C'est-à-dire le fait de se dire au regard de quoi je juge que telle politique, elle est pertinente ou pas. Et ce référentiel IBEST, on va l'appliquer. Et là, vous voyez, je ne rentre plus dans les indicateurs. Je vais vraiment rentrer dans le questionnement évaluatif en disant, par exemple, une politique de rénovation urbaine, d'accord, elle va améliorer la qualité de l'habitat des espaces publics, mais qu'est-ce que ça produit pour les gens, pour les habitants, du point de vue de l'emploi, de la sociabilité, de la santé, etc. Comment est-ce que ces choses-là sont prises en compte ou pas? Et un autre exemple qui peut-être existe dans certains de vos territoires, sur territoire zéro chômeur de longue durée, typiquement, on est sur un projet qui est très, très connecté avec cette question de se dire l'emploi, ce n'est pas juste j'en ai un ou j'en ai pas, mais par contre, les 8 dimensions sont particulièrement prises en compte. Et le dernier élément sur le pilotage, moi, je vous invite aussi vraiment tous à réfléchir à cette question des seuils de soutenabilité. Le fait de se dire comment est-ce qu'on se met d'accord. Ça, c'est un outil de pilotage très classique. Qu'est-ce qui me fera dire qu'on est dans le rouge? Qu'est-ce qui me fait dire qu'on est dans le vert? Et comment est-ce qu'on se met d'accord là-dessus? Et ça, pour le coup, je rejoins Timothée Duverger. C'est un acte politique. Donc, je ne vois pas comment ça peut être normé. En fait, comment on peut tous se mettre d'accord? Il y a une équipe d'élus qui dit ça c'est une situation soutenable, ça c'est une situation non soutenable, ou ça c'est ce qui nous fait dire qu'on est dans le rouge ou le vert, et puis à partir de là on regarde les indicateurs et où est-ce qu'on veut placer le curseur. Après, pour donner un exemple très pratique de ce qu'est une situation soutenable, on peut quand même un peu il y a des choses qui sont plus simples. Par exemple, sur notre indicateur de santé, nous on s'est dit la situation de soutenabilité, c'est pas tout le monde est en bonne santé, c'est tous ceux qui sont malades sont suivis médicalement. Et à partir de là, vous voyez qu'on va tracer des indicateurs et à chaque fois d'arriver à se dire entre une situation de... on ne cherche pas une situation idéale, mais après on se dit quelle est la progression qu'on veut, quel est le cap qu'on se donne collectivement, à quelle échéance, ça devient des outils qui rentrent dans le pilotage.
Et du coup, Monsieur Duverger, pour prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on s'est dit, on a beaucoup parlé de bien-être et on se demandait, est-ce que penser le bien-être avant de penser la croissance, ça implique un redéploiement massif des politiques mises en place par les collectivités? Quel est votre avis là-dessus?
C'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à penser, oui, que ça forcément, ça peut avoir des implications assez fortes. Par rapport à ce que je vous disais juste avant sur le PLF, donc là c'était plutôt au niveau de l'État, mais ça vaut sans doute également au niveau des collectivités. J'ai vu une certaine région, par exemple, qui voulait supprimer de nombreuses subventions aux associations. Je ne citerai pas la région, je pense que vous la reconnaîtrez très vite, et qui allait bien au-delà des économies budgétaires qui lui étaient demandées. Bon, là aussi, c'est des... Et qui ciblait certaines associations, considérant que c'était, au fond, des adversaires politiques. Bon, vous voyez la logique qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'effectivement, oui, poser la question du bien-être, du lien... C'est-à-dire, en fait, derrière, c'est la question notamment du lien social, de comment on fait société. C'est cette question-là qu'il y a derrière et pas seulement, du coup, des logiques économiques. Évidemment que ça peut avoir des incidences assez fortes sur les budgets, au-delà même de ces actes politiques-là. Je pense, je vous donnerai un exemple. Encore une fois, je pense que dans les collectivités, typiquement, encore une fois, on a peu interrogé les aides économiques qui étaient versées. Moi, je vois la région Nouvelle-Aquitaine récemment a adopté une démarche. Alors, j'ai oublié c'est le terme exact, mais ils ont justement mis en place des indicateurs maintenant pour faire en sorte de donner leurs subventions, leurs aides, notamment aux entreprises, par exemple, sous des conditions sociales, environnementales,
etc. Les éco-socio-conditionnalités.
Les éco-sociaux, voilà, merci. Vous voyez, c'est parce que je parlais de simplicité tout à l'heure. Là, il faut travailler le naming, mais cela dit, c'était plutôt intéressant. je trouve, comme démarche. Et là, effectivement, on questionne, est-ce que quand je donne une aide à une entreprise, est-ce que finalement, l'aide que je donne, l'argent, ne va pas s'échapper du territoire? C'est aussi ça la question derrière. Je prendrai un exemple pour donner un exemple étranger. Je pense que j'aime bien le donner, c'est la ville de Preston, puisque je connais bien le maire. Et la ville de Preston, dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, s'est rendu compte qu'en fait, tous ces marchés publics étaient orientés, bénéficiaient en réalité à des grands groupes et qui capturaient la valeur et qui finalement, dans une logique d'exit territorial, la sortaient du territoire, évidemment, parce que leur siège était tout à fait ailleurs. Bon. Et donc, ils se rendaient compte que comme ça, l'argent qui était mis dans leur marché public s'échappait du territoire. Je pense que vous devez voir un peu de quoi je parle. Et en fait, ils ont du jour au lendemain décidé d'identifier ce qu'ils appelaient des institutions d'ancrage, et on retrouve cette logique territoriale, hein, d'ancrage, hein, au fond territorial. Donc, ils ont pris l'hôpital, l'université et la ville, et ils ont décidé de réorienter leur marché public vers les acteurs locaux. Hein. Cela étant légal, hein, je précise, on était dans le cadre des directives européennes de concurrence, etc., des marchés publics. Donc, évidemment, il n'y a pas de préférence locale, mais ils ont construit évidemment leur marché public de façon à ce que ça fonctionne. Et puis par ailleurs, ils ont fait émerger un tissu économique local de PME, de coopératives également, pour répondre à leur marché public et structurer des filières autour de ceci. Et de cette façon-là, ils ont divisé par deux le chômage, ils ont augmenté considérablement leur niveau de bien-être, hein. Donc il y a des indicateurs, ils ont eu des prix là-dessus en Angleterre, etc., avec une amélioration de leur bien-être territorial assez nette. Voilà. Et effectivement, d'une commande publique qui majoritairement quitter le territoire, finalement, eh bien, ils sont allés en seulement 4-5 ans, hein, sur une commande publique qui était à majorité, qui restait sur le territoire, sur la ville elle-même ou la région dans son ensemble. Voilà. Donc, c'est quand même je trouve, assez intéressant, hein, ça. On voit bien que, à travers ces logiques, il peut y avoir, oui, des véritables ruptures, hein, au niveau des référentiels de politique publique. Là, c'en est un exemple caractéristique et qui a eu des effets, hein, très concrets et mesurables, tout à fait positifs. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, donc oui, je pense qu'effectivement, ça peut avoir des implications. Mais pour conclure là-dessus, et on se rejoint entre nos deux interventions, ça reste très politique. C'est-à-dire, encore une fois, en indicateur, ce n'est pas parce que vous avez un super indicateur que ça va, voilà, ça va vous aider à prendre des décisions. À la fin, la décision, elle est dure à prendre. C'est-à-dire, il faut dire, bah oui, je finance ça plutôt que ça. Et ça, c'est un acte politique, hein. Donc ça, à la fin, ça reste ça. Donc l'indicateur, pour moi, n'est que le reflet, en réalité, des valeurs et des normes qui sont structuré par la collectivité, enfin par l'institution publique.
Merci beaucoup pour ces deux interventions. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, à contacter directement les personnes en question, sachant que le livre de Monsieur Duverger est également en vente, un de ses bouquins au niveau de la librairie des ETS. Donc voilà, merci beaucoup et bon retour dans vos territoires.